Salut Daniel, c'est Jaco de Meudon. Je voudrais savoir, ou tout au moins interroger Sarkozy, si on peut naître cocu de naissance, j'entends génétiquement. Salut Daniel, merci.
Bonjour, donc je voudrais d'abord vous féliciter pour cette série d'émissions sur les années 80, cette étude de là où le mal a commencé. Et je suis surpris par contre de ne pas entendre parler de quelqu'un qui me semble-t-il a été un prophète, a prophétisé là, en tout cas ces décennies suivantes de stupidité médiatique, de tapage médiatique, pour reprendre un de ses mots. Et cette personnalité, c'est Milan Kundera, qui, selon moi, a vraiment prévu tout depuis le début, et d'ailleurs son refus d'apparaître dans n'importe quel au sein de n'importe quel système médiatique depuis les années 80 est exemplaire. Et je vous invite donc à lire ou à relire L'Immortalité, qui selon moi est le 100 ans de solitude de la bêtise occidentale, rien que ça. Et voilà, donc vous avez dit que Hockenheim devait se sentir seul. Moi, je pense qu'il n'était pas si seul que ça. Milan Kundera nous avait prévenu. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour ces émissions.
Salut Daniel, félicitations pour la rétro sur les années 80, justesse de ton, finesse d'analyse, excellent. Je voulais répondre à ton auditeur sur le cas Thatcher. En fait, Madame Thatcher est arrivée au pouvoir grâce au système électoral anglais, qu'on appelle là-bas le first past the post system, c'est-à-dire un tour de scrutin, majorité donnée au parti en tête. En fait, Madame Thatcher a été élue pendant 10 ans, plus de 10 ans, avec 33% voire moins d'électeurs, donc une ultra minorité au niveau du peuple anglais. Comment dire, et tout ça parce qu'une partie des militants de gauche ne votait plus. Donc, comment dire, elle a tout cassé, bien sûr, au niveau de la santé. Il faut savoir que à l'heure actuelle, pour se faire opérer d'un genou, il faut attendre 6 mois. 33% des gens seulement ont accès à un dentiste public. Voilà, donc en fait, il y a un retour aux valeurs victoriennes, mais il faut savoir que là-bas, les valeurs victoriennes ont toujours été admirées. Donc si ton auditeur a envie de traverser la Manche, pas de problème, j'y paie son ticket. Allez, salut, c'est une Fuegos de La Réunion. Ciao.
Bonjour, David de Dijon, tout simplement pour dire que je trouve très caricatural toutes les idées développées dans cette émission et je ne comprends pas ce reste d'antilibéralisme que l'on trouve en France contre la concurrence qui est naturelle entre les hommes, contre la liberté qui est un droit fondamental. Quand on voit qu'en France plus de 50% du PIB passe par les mains de l'État, bon bah c'est un peu comment dire du vol pur et dur. Quand on voit que dans certaines situations on peut perdre du revenu à travailler, des choses, des exemples comme ceux-ci, je pense parlent et sont les exemples des bienfaits du libéralisme. Deux chiffres par rapport à votre émission, dans laquelle par rapport à la Chine, dans laquelle on a entendu un ouvrier chinois dire que grâce au travail qu'il avait trouvé dans son usine, son revenu a été doublé de 500 yuan à 1000 yuan par rapport à ce qu'il faisait anciennement dans la campagne, par rapport également à un employeur citant un passage de 60 à 90 euros depuis les années 90 pour l'emploi d'un Chinois qui montre bien l'évolution progressive de leur niveau de vie. Voilà. Eh ben, continuez quand même. Hein. Et puis, à une prochaine fois.
Écoutez, encore merci à tous pour cette émission-là qui n'est pas terminée encore, mais que je tenais quand même à souligner, ça y est, ça se termine, que moi, 68, j'avais 25 ans, j'étais ouvrier, j'étais pas étudiant parce que j'ai commencé à travailler à 13 ans et demi, du fait que je suis du mois de novembre. Et quand les accords de Grenelle ont été signés, au bout de 2 mois et demi de grève, j'ai eu quand même 600 francs d'augmentation par mois. J'avais un contrat de 47h50, j'ai eu un contrat de 40 heures, donc je travaillais plus le samedi, je faisais 10 heures par jour. C'était déjà pas mal, mais enfin, c'était une avancée énorme. Et puis ensuite, on a eu quand même nos 4 semaines de congés payés. Et j'en parle, c'est des meilleurs, quoi. La retraite complémentaire qu'on n'avait pas, nous, dans l'industrie du caoutchouc, et ainsi de suite. Alors bon, bah, faut pas toujours cracher dans la soupe quand même. Hein. 68, pour moi, ça a été très très bénéfique. Bon, on peut cracher sur tous les intellectuels, tous les étudiants, mais les ouvriers ont quand même bien manifesté, bien travaillé et obtenu ce qu'ils voulaient. Quant aux privatisations sous la gauche, alors ça, c'est un grave problème. Je pardonnerai jamais à Jospin, et d'ailleurs, aucun Français lui a pardonné les accords de Barcelone. Bon, c'est Jean-Paul Baud de l'Essonne. Salut à toi, Daniel, et merci encore une fois à toute ton équipe et à toi-même.
Oui, salut. J'aimerais quand même dire que là, ce que je viens d'entendre à la base, j'y suis, vous êtes quand même une équipe de propagandistes menteurs, parce que, premièrement, déjà, Tapie a raison dans le sens où une entreprise sans patron ne peut pas exister. Moi, je me souviens qu'au début des années 80, je me suis retrouvé avec un tract de la CGT, j'avais 16 ans, et avec un tract de la CGT qui disait « Ouvriers sérieux cherchent patrons consciencieux ». Donc même les syndicats, en l'occurrence la CGT, réclamaient des patrons, des dirigeants. Voilà, première chose. Deuxième chose, je suis fils de 68ard. Mes parents étaient profs de lycée professionnel, en français d'ailleurs, donc ce qui n'était pas rien, ce qui était pas en banlieue lyonnaise, dans ce qui était plus difficile d'ailleurs. Ils ont été syndicalistes toute leur vie. Et eux, ils ont fait 68, ils ont toujours porté cette valeur de 68, ils ont toujours aimé ces valeurs qui étaient celles de mai 68, parce que justement, on pouvait à la fois baver, critiquer le Parti communiste sans être taxé d'être de droite. C'est-à-dire qu'on pouvait être de gauche et casser le PCF. Et c'était une grande victoire. Et la CGT, donc, oui, parce que c'est quand même les fossoyeurs de mai 68, le PC et la CGT. Donc voilà, faut pas dire n'importe quoi. Et le syndicalisme autogestionnaire, tout ce qui était autogestionnaire, c'est ce que détestait le plus la CGT et le Parti communiste dans les années 70. J'en veux pour preuve que dans toutes les manifs antinucléaires, antimilitaristes qu'on a faites, on avait en face les militants de la CGT et du PC qui disaient que l'armement et le nucléaire défendaient le travail, donc, et créer de l'emploi. Donc voilà. Alors faut arrêter hein, d'essayer de falsifier l'histoire, mais ça m'étonne pas. Ça a été le lot de tous les staliniens, hein, ça.
Merci pour vos messages, chers auditeurs modestes et géniaux de là-bas, si j'y suis. Des réactions intéressantes, hein, qui vont un peu dans tous les sens, mais enfin qui montrent que cette visite guidée dans les années 80, avec nos guides très éclairés et très éclairants, eh ben, ça vous passionne, ça vous intéresse et ça vous fait réagir, comme dit l'auditeur, de ces années 80, là où le mal a commencé. Le mal, je suis pas sûr, mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que nous avons vécu à cette époque, pour ceux qui étaient là, un grand virage, et ben, ça continue aujourd'hui, enfin, entre ce qui se passe ces jours-ci sur la scène politique en France. Et ces années, on voit l'écho qu'il n'y a pas de tout, d'ailleurs. Hein. Il y a des choses qui voilà qui ne font pas sens, comme on dit aujourd'hui. Mais beaucoup d'acteurs, beaucoup de faits de l'époque ont des répercussions toujours aujourd'hui. On parlera de Malek Houssekin. On se souvient de ce jeune homme qui avait été tué lors d'une manifestation. On parlera aussi du très oublié Louis Pauwels et son sida mental et du retour de la violence dans ces années 80. Nous, on est toujours ici à Boston. On va rencontrer Noam Chomsky, l'intellectuel bien connu des auditeurs de là-bas. Si j'y suis, j'en suis sûr. Et on vient avec une question qui est la suivante. Si on demande en France à un journaliste vedette, animateur, la question « Subissez-vous des pressions ?», il répond tout de suite « Non, 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 je dis ce que je veux, etc. » Donc on demandera à Chomsky de nous expliquer à nouveau comment fonctionne le contrôle de la pensée dans une société démocratique, dans une société démocratique et non pas dans une dictature. C'est évidemment, vous le savez, l'essentiel de son travail, la fabrique du consentement, et puis on a mille questions évidemment à lui poser aujourd'hui. On reverra d'ailleurs la semaine prochaine. Voilà. Parce qu'au fond, la question, elle est pourquoi, qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, c'est qu'après des années d'indignation, d'imploration et de compassion, on se dit, bon, maintenant qu'on le sait, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, les questions qui nous hantent ici dans cette ville bien froide de Boston. Donc aujourd'hui, suite des années 80, le retour, et auparavant, d'autres messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Adrien de Rennes, en fait, j'appelle concernant ce que vous avez dit sur la pensée 68 de Ferry et Renault, qui relève visiblement de la malhonnêteté intellectuelle. J'ai bien aimé vos émissions, mais quand vous dites que le bouquin est plein d'attaques ad hominem, c'est complètement faux, c'est avant tout un bouquin de philo, où il y a des réfutations de théories de Foucault, Derrida, Bourdieu ou Deleuze, mais il ne s'agit en aucun cas d'attaques ad hominem. De plus, il n'explique pas du tout que mai 68 aurait un lien avec ces auteurs-là, ça c'est une autre erreur, et en plus quand vous leur reprochez de relire mai 68 à l'aune des années 80 et de ce qui s'y est passé, bon, vous avez le droit, pourquoi pas, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment, relire les années 80, à partir de ce qu'on vit aujourd'hui. Allez, bonne continuation, salut.
Bonjour à toute l'équipe de là-bas, si j'y suis, nous sommes une petite équipe, on est parti en balade sur l'île de Groix, fantastique endroit, on se régale. Juste un petit détail qui nous a un petit peu gâché les vacances, c'est qu'on s'est dit, il y a le repère de l'île de Groix, et pourquoi pas aller boire un coup dans un bar qui abrite un repère de là-bas, si j'y suis. Et donc on s'est pointé, et on a trouvé un petit peu cher les consos quand même, hein, parce que sans service, sans rien, on a trouvé que c'était un petit peu attrape-touriste. Sinon, l'endroit est fantastique, et le bateau ivre, c'est un bel endroit. Bien décoré, mais bon, très cher, je trouve, pour passer des vacances. Voilà, je voulais le dire, parce que il faut pas non plus que les repères servent à attirer les auditeurs de là-bas, si j'y suis, qui sont en vacances, c'est juste pour les assommer un peu plus, quand ils passent. Voilà, merci pour tout, à bientôt, et puis le bonjour de la Bretagne vous fait hyper, hyper beau. Au revoir, et bonne continuation.
Je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, mercredi 16 avril 1980, voici le journal. Alain Bédoué, bonjour.
Bonjour. 1980, Ronald Reagan élu, John Lennon assassiné.
Mobile du crime, un autographe refusé.
Jean-Paul Sartre meurt le 16 avril 80.
Jean-Paul Sartre est mort hier soir à Paris. L'écrivain philosophe a succombé à un œdème du poumon.
Gérard Daboville traverse l'Atlantique à la rame.
Bonsoir les enculés du pouvoir socialiste.
Années 80, les radios sont libres.
Alors c'est bien Carbone 14, c'est reparti.
On a encore eu le cul, hein. Années 80, alerte au sida.
Une mystérieuse maladie qui a fait son apparition il y a environ 2 ans aux États-Unis.
Et toujours, l'URSS.
Le russe pilote l'américain.
Années 80, victoire de Ronald Reagan.
America is back.
Pyramide du Louvre, action directe. Nouvelle-Calédonie.
Ici, les comités de lutte sont particulièrement actifs. Barrage, harcèlement des forces de l'ordre et intimidation des broussards.
L'entreprise récupère les libertaires.
Alors, Serge Julie, qui a été votre patron à Libération, alors, vous lui payez un sacré costume, hein, ça... Oh là 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 là.
Désamorcer toute révolte.
En mai 68, on a refait le monde. En mai 86, on refait la cuisine.
Pénétrez dans cet univers musical.
Attention, c'est à vous, super.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec Renaud Lambert. Années 80, retour en arrière.
Flight number 2, arriving from...
Le Minitel, touche pas à mon pote, charité business, les restos du cœur, le pen qui monte, le sida... La 5, le fric, les paillettes, le cynisme des ex-gauchistes parvenus au pouvoir et qui disent « En 68, nous nous sommes battus pour ne pas devenir ce que nous sommes devenus ». Comment s'est opéré ce grand renoncement qui nous colle toujours au basket et comment s'en débarrasser ? Eh bien d'abord, allez voir comment ce retournement a pu se produire et envahir et coloniser et inhiber toute une époque, la nôtre. Nous partons pour une petite excursion dans les années 80 avec François Cusset, auteur de la décennie Le cauchemar des années 80, Frédéric Lourdon, auteur de La vérité sauvera le monde, Serge Halimi, auteur de Quand la gauche essayait et Le grand bond en arrière, parce que nous avons tous en nous quelque chose des années 80. Jacques Séguéla, ce sera pour une autre fois.
Me estás dando mala vida. Yo pronto me voy.
Lorsque l'acte unique sera adopté par les 12, l'Europe va vraiment devenir une zone unique sans frontières, un marché unique de 320 millions de consommateurs. Alors bien sûr, cela suppose de supprimer toutes sortes de barrières techniques, douanières. Au bout du compte, un marché trois fois grand comme celui du Japon.
Abattre les barrières, sans frontières, une Europe unie, tous ces mots sont vraiment merveilleux. Et je ne comprends pas pourquoi en 2005, les Français ont traîné les pieds, enfin ont même dit non, quoi.
Ah, moi je le sais parce que Serge Julie me l'a dit.
Ah.
Oui, ils sont racistes, frileux et feignants. Donc c'est la raison. Non, ce qui est très intéressant là dans cette histoire d'acte unique, je
c'était
trouve,
le 20 novembre 1986.
Ouais, c'est 20 novembre 86. Ce qui est très intéressant, c'est que en deux coups déjà, on voit se dessiner l'une des tendances les plus profondes et les plus structurantes de la vie politique française, à savoir le grand accord, la grande convergence des partis gouvernementaux sur la question européenne. Alors là, c'est le truc qui va résister à absolument toutes les alternances et qui d'ailleurs, c'est parce que c'est une question tellement profonde et je le redis, tellement structurante que elle va de fait rendre toutes ces alternances électorales absolument stériles, puisque ce seront des alternances sans alternative. Alors voici la séquence. Le lancement du processus qui doit conduire au grand marché, c'est le sommet de Fontainebleau 1984, Mitterrand est aux manettes. L'acte unique qui en est le produit est signé en 1986 par Jacques Chirac. 1992, le traité de Maastricht est négocié et signé par Bérégovoy, Dumas, Mitterrand. 1993, c'est Édouard Balladur qui réalise l'indépendance de la Banque de France, qui est une condition sine qua non pour entrer dans l'euro. 1995, c'est Juppé qui est aux manettes pour piloter la première phase de la qualification pour l'euro. 1997, ce sont DSK et Jospin qui vont assurer la deuxième phase. 1998, ce sont Chirac et Jospin, main dans la main, qui signeront le passage effectif à l'euro. Donc là, il y a un trait qu'on peut faire passer entre tous ces points qui est d'une remarquable continuité. Et Nicolas Sarkozy qui cherche des tabous à détabouiser partout, il y en a un dont il ne s'occupe pas, en tout cas, c'est bien celui-ci. Vous me direz que de ce point de vue, il faudrait mêler également Ségolène Royal dans l'entreprise de détabouisation des tabous. Mais alors là aussi, je veux dire, les poules auront des dents, quoi.
Et on le fera pas.
Et on le fera pas.
C'est un pays extraordinaire ici, j'adore. N'importe qui peut y faire ce qu'il veut tant qu'il a les moyens de payer ses amis. Il leur faudrait ici, c'est une bonne vieille révolution, t'es pas d'accord?
C'était cette nuit dans le quartier latin, un jeune homme de 22 ans est violemment frappé par des policiers, membres de la brigade mobile. Il décède d'un arrêt cardiaque. Le jeune Malik Ousekine était dialysé.
Un exemple, Malik Ousekine. Malik Ousekine. Malik
Ousekine. Un point semble pourtant clair, il a bien été matraqué rue Monsieur le Prince alors qu'il tentait de se réfugier dans un immeuble poursuivi par les forces de l'ordre. Les policiers mis en cause font partie de ces brigades motorisées de la préfecture de police. Ce peloton voltigeur motocycliste était intervenu la nuit dernière au quartier latin à la suite d'incidents provoqués par des manifestants après l'évacuation de la Sorbonne par les forces de l'ordre. La mission de cette unité composée de volontaires est d'intervenir très vite et par surprise en impressionnant le plus possible l'adversaire pour le déstabiliser. Même si les coups ne sont pas officiellement la cause du décès de Malik Ousekine, un jeune homme de 22 ans est quand même mort ici dans des circonstances qui devront être éclaircies.
Alors ça, on est le 6 décembre 1986, c'est une archive d'Antenne 2, le décès de Malik Ousekine.
Commentaire, François Cusset.
Double commentaire. D'abord, il y a le rappel qu'en 86, à l'époque où on croit que tout est fini, la politique, le pouvoir, l'économie, la bonne vieille violence policière existe toujours. Ça fait quand même 6 mois que la droite est au pouvoir et que le duo Pasqua-Pandreau a effectivement rétabli quelques belles traditions, comme ces pelotons voltigeurs motocyclistes datant de l'époque de la guerre d'Algérie, et qui sont effectivement diablement efficaces. Mais au-delà de la mort tragique de Malik Houssekine, c'est évidemment le mouvement d'opposition à la loi de Vaquet. Moi, ce que j'ai noté en relisant la presse de l'époque, c'est la myopie incroyable de tous les observateurs. Vieux 68ard, Rassi est devenu éditorialiste centriste ou de droite, moquant ces jeunes qui ne veulent pas de la sélection, mais ne veulent qu'une chose dans la vie, c'est un travail, un emploi. Donc, une espèce de fin de l'héroïsme.
Réplique. Alain Finkielkraut.
Pour moi, ce mouvement n'a pas été révolutionnaire, certes, mais il n'a pas été non plus moral, utopique, comme on l'a défini, ou il a été surtout, et je ne trouve pas de meilleur mot, cucu.
Vision totalement fausse, puisque le mouvement d'opposition à la loi de Vaquet était extrêmement divers, varié. Il n'y avait pas qu'Isabelle Thomas, cette égérie socialiste, effectivement, dont le PS fera son héroïne dans les années suivantes. Ça allait, effectivement, de trotskistes enragés et d'anarchistes énervés, jusqu'à des gens, eux, tout à fait favorables à la sélection dans l'université. Donc, comme d'habitude, la presse, les idéologues dominants, et là il y a vraiment un saut de génération, ne comprennent pas ce qui se passe, sont déjà surpris que des jeunes prennent la rue, ce qui ne s'était pas vu depuis plusieurs années. Je dirais que le fossé entre ça et la violence de la répression policière, l'ampleur du mouvement, effectivement son dénouement tragique, puisque le lendemain de la mort de Malik Houssekine, il y a une grande manifestation silencieuse, et le retrait du projet de loi par Chirac, ça prouve bien que voilà, il y a deux France qui ne se comprennent plus à ce moment-là. Je sais pas si c'est une question de génération ou de classe, mais.
J'ai décidé de retirer l'actuel projet de loi. J'ai demandé au ministre de l'Éducation nationale d'engager immédiatement une large concertation permettant d'adapter les universités françaises à l'évolution du monde moderne, aux aspirations légitimes de la jeunesse, tant dans le domaine culturel que dans le domaine de l'emploi, et aux ambitions de notre pays.
Vous avez traversé le siècle, vous avez eu des fléchettes qui étaient des idées. Ça a été le temps de Gurdjieff, ça a été aussi le temps de la Nouvelle Droite, oui, ça a été ensuite le temps du sida mental. Vous vous rendiez compte de tout ce qui passait?
Voilà, c'est le 7 juin 1989 au micro de Jacques Chancel, Radioscopie. Louis Poel s'exprime et s'explique sur cette affaire du sida mental.
Mais le sida mental, ça vous a échappé quand même.
Ah, écoutez, là, il faut s'expliquer sur le sida mental. Malheureusement, c'est devenu un mot historique. Moi, je connais bien ce qu'est la jeunesse démunie. Je n'ai pas dit d'ailleurs dans cet article, ce fameux article, que toute la jeunesse était atteinte de sida mental. J'aurais été fou. J'avais en vue des jeunes démunis dans leur milieu familial, par l'échec scolaire, et à qui ne restait que l'environnement sous-médiatique, sous-culture, sous-culture américaine. Et je savais que cela perdait en effet leurs immunités morales naturelles. Le mot sida, ce sont des initiales qui signifient une maladie de perte des immunités. J'ai dit exactement ce que je voulais dire. Malheureusement, lorsque cet article est paru, le lendemain est mort un pauvre garçon qui était Malik Houssekine, et toute une campagne nationale et internationale s'est déchaînée à mon propos. Je ne regrette pas la formulation. Je crois qu'il faut se battre pour des idées quand on croit à des idées. Je crois par exemple à l'économie libérale. Je crois qu'il faut conserver un certain nombre de valeurs, et donc il est bon d'être polémiste. De temps en temps, emporté par les mots, au lieu d'être polémiste, on est pamphlétaire. Parfois, j'ai été un peu trop pamphlétaire. Je ne regrette pas d'avoir été polémiste et je le demeure.
François Cusset.
C'est curieux d'ailleurs de l'entendre dire qu'il connaît bien ce qu'est la jeunesse démunie. Je ne sais pas où il l'a rencontré. Non, je crois qu'il y a... Il y a deux lectures. La lecture évidente qui a été faite sur le moment d'où le tollé qu'a suscité cet article, hein, où il parlait du sida mental des jeunes, est une lecture droite contre gauche, vieille droite rance, de grande bourgeoisie du Figaro, insultant la jeunesse rebelle et courageuse, elle naturellement de gauche. Je pense qu'il y a une autre lecture...
Cultivé, Powell, hein, cultivé,
érudit,
du panache,
sûr,
du sang du pamphlet, un certain courage.
Ah, c'est sûr qu'il s'est trouvé assez seul.
Du mal à trouver aujourd'hui,
dans ce moment.
On pourrait dire ça.
Non, mais moi je dirais qu'au-delà de cette lecture droite-gauche, c'est bien plutôt une vision justement biologique du politique, et elle venant d'années beaucoup plus sombres du siècle, quand il parle d'immunité morale, quand il lit le politique dans des termes physiologiques. Je crois qu'il y a là une hystérie conservatrice qui traverse l'échiquier droite-gauche, me semble-t-il, et dans laquelle se retrouvent certains éditorialistes de gauche, ou dits de gauche, ou de centre-gauche au même moment.
Et ça fait partie de ce que vous appelez le cauchemar des années 80.
Ah bah, c'en est une des formulations, oui, les plus flagrantes. Voilà, ce genre de propos disent un peu les tensions latentes de l'époque.
Antenne de 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier.
Bonsoir et merci d'être fidèle au journal d'Antenne 2. À la une ce soir, le retournement de tendance sur les marchés financiers internationaux. Hausse de 0,8% à la Bourse de Paris. À New York, Wall Street s'est ressaisie après la panique d'hier soir. Dans quelques instants, analyse et commentaires en compagnie de Philippe Sassier, notre spécialiste, et de nos correspondants à l'étranger.
On risque d'avoir des développements au moins aussi graves. Parce que les déséquilibres fondamentaux du monde et de l'économie américaine, les deux sont liés, sont infiniment plus importants qu'ils n'étaient en 1929.
Qui aujourd'hui, Frédéric Lordon, se souvient de ce crack de Wall Street du 19 novembre 1987 ?
Ah, pas mal de monde quand même, hein, parce que ça leur a rougi les fesses, hein, cette affaire. Ça, vraiment, là, ils avaient dégusté. Non, et puis en plus, ça avait le bon goût d'être tombé un jeudi d'octobre. Et le dernier, voilà, et donc le fameux jeudi d'octobre comme 1929. C'est ça le truc intéressant d'ailleurs, c'est que 1987, c'est le crack, mais 1986, la déréglementation financière est passée par là. Les marchés financiers qui étaient tout étriqués, la bourse qui était croupion, qui vivotait, particulièrement depuis qu'on avait retiré de la cote les grandes entreprises du fait de la nationalisation. Ces pauvres gars, ils se battaient les flancs, c'était terrible. Mais là, voilà, on reprivatise et puis on ouvre les marchés financiers. Alors c'est l'euphorie, c'est la joie, les clubs d'investissement et tout le tremblement. Et 1987, c'est le mélange toxique de la déréglementation financière et des privatisations. Pourquoi ? Parce que les privatisations propulsent sur les marchés financiers des petits épargnants qu'on a achalandés avec les pires arguments possibles, c'est l'Eldorado à tous les coups l'on gagne, sur des marchés financiers dont la principale propriété est leur extraordinaire instabilité. Du coup, nous allons renouer avec un certain type d'événement historique qu'on n'avait plus connu depuis presque 60 ans, puisque en effet, le dernier crack est remonté à 1929, tout de même, une paye, n'est-ce pas ? Alors, l'interaction des deux, ça va être tout à fait prodigieux, puisque les privatisations commencent vraiment sous les flonflons. Moi, j'ai encore dans l'oreille madame, monsieur, la pub qui nous annonçait la privatisation de Paris. On voyait souffrir la porte de bois ouvragée de la rue d'Antin, ça débouchait sur l'orangerie, c'était absolument merveilleux. Tous les bijoux de famille les plus reluisants ont été passés à la privatisation et ça marchait du tonnerre. Les émissions ont été sursouscrites, c'était vraiment formidable. Alors, vient le tour de la compagnie financière de Suez. Après madame, monsieur, etc., il faut trouver un truc vraiment là pour les faire venir. Alors, on va chercher Catherine Deneuve.
Quand on vous dit Suez, si vous pensez Deneuve, c'est que la coûteuse campagne de publicité que s'est offert le groupe pour fêter son retour au privé a déjà porté ses fruits.
Bientôt, vous pourrez devenir actionnaire du groupe Suez. Réfléchissez.
Catherine Deneuve fait l'article pour la privatisation d'Indosuez.
Vous alliez dire tapine et puis vous avez...
Oh non, ça c'est vraiment... Là, ça c'est pas vrai, ça n'a même pas effleuré mon palais. Mais non. malheur.
Les Français préfèrent.
Oui, bien sûr, je les comprends d'ailleurs. Catherine Deneuve n'avait pas si tôt parlé que badaboum, la bourse perd 20% en une seule journée. Évidemment, c'est terrible. Alors, on parlait il y a un instant de la pédagogie bourgeoise. boursière. En matière de bourse, il y a aussi la pédagogie du réel. Et celle-là, ça va être la première leçon administrée aux petits épargnants et elle va être sacrément cuisante.
Dans cette affaire, ceux qui auront le plus perdu, les petits épargnants. C'est la première année que j'investis en bourse. J'ai tout perdu, $80,000.
Le malheur, c'est qu'il va y en avoir d'autres après. Et même assez nombreuses, on n'en voit pas le bout. Hein. La dernière en date, c'est celle de l'éclatement de la bulle Internet. Et ce sont les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre implacablement, en vertu de la logique qui veut que les mêmes causes entraînent les mêmes effets.
Le sourire ce soir. Nous avons le sourire ce soir, vous aussi, je le sais. Depuis notre premier bonsoir, c'était hier à 20h précis, il y a 24h et 44 minutes, il s'est passé un événement considérable dans l'histoire de la télévision française. Alors que pour la première fois, une chaîne de télévision et de service public tentait de faire aussi bien que les Américains en organisant un télémarathon de plus de 24 heures pour une cause, une maladie mal connue. Nous pouvons vous dire avec Claude que nous avons déjà battu toute proportion gardée. En tenant compte du nombre de téléspectateurs d'outre-Atlantique et du nombre de téléspectateurs français, nous avons battu le record des Américains.
Voilà, faire aussi bien que les Américains, c'était le 5 décembre 1987 sur la 2 chaîne publique où Michel Drucker lance le premier Téléthon. François Cusset, la compassion médiatique, c'est pas exclusif aux années 80, ça a commencé bien avant.
Ah non, si, c'est vraiment...
Ça développe, à ce moment-là
L'humanitaire, à cette échelle-là, dans cette version consensuelle et masse médiatique, est une invention du tournant de la décennie 80, quoi, enfin 79-80, avec l'opération Un bateau pour le Vietnam. Et il faut la télé privée, la télé à paillettes, la télé, effectivement, de la deuxième moitié des années 80, pour donner toute son ampleur à ce genre de phénomène. Donc, il ne me semble pas que ça existe avant, sous cette forme en tout cas. Quoi.
Frédéric Lordon.
Je voulais rajouter simplement un petit mot. C'est quand même, effectivement, je suis d'accord avec François, c'est-à-dire c'est une innovation des années 80 et c'est le lancement de la grande dynamique de la dépolitisation, c'est-à-dire du contournement du politique par le caritatif, humanitaire, moral, qui laisse à chaque fois qu'on est confronté à ce genre d'événement dans une sensation de malaise et d'ambivalence, parce qu'il est difficile de dire ouvertement « je suis contre le Téléthon », alors même que la multiplication de ce type d'opérations conduit à soustraire des choix de financement de recherche, notamment médicale, de la délibération collective qui a lieu dans les instances politiques. Alors évidemment, ça aussi, c'est un petit problème tout de même.
Étoile des neiges.
Les quotidiens ne se contentent pas
de rapporter par le détail l'événement d'hier, qualifié d'historique. Dans leur ensemble, et quelle que soit leur orientation politique, ils applaudissent plutôt la réélection de François Mitterrand. Sous le titre « La génération Mitterrand a gagné », le soir de Bruxelles évoque une vague sereine, plus soucieuse du bon sens commun que de gloire gaulienne ou d'activisme chiracien. Sic, la catholique libre Belgique parle de président rassembleur, le rassemblement et la nécessité de gouverner au centre, étant d'ailleurs les thèmes les plus exploités par la presse ce matin. Jacques Chirac, qualifié de beau joueur, se voit quant à lui décerné de bons points pour sa politique économique, dont, comme le souligne la libérale dernière heure Les Sports, la France tonton maniaque devra tenir compte. Bruxelles, Daniel Deloy, France Inter.
Alors voilà, ça c'est un document du 9 mai 1988, la réélection de François Mitterrand à 54% et les approbations de Bruxelles. Je voudrais qu'on vienne un tout petit peu en arrière parce qu'on a arpenté très rapidement, on a enjambé l'année 87 un peu rapidement. Il faudra quand même ne pas oublier Le Pen et son détail hein, en septembre 87 sur RTL, ce qui n'était pas rien.
Et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Mais vous mettez en doute...
C'est un point de détail.
Non, mais est-ce que
6 millions de morts.
Est-ce que vous affirmez... Non, pardon.
Je n'ai pas compris, mais...
Non, mais 6 millions de morts, comment c'est...
Juifs, oui. La Seconde Guerre mondiale, vous considérez que c'est un point de détail?
Non, c'est la question qui a été posée, c'est de savoir comment ces gens ont été tués ou non, n'est-ce pas?
Oui, c'était pas un point de détail quand même.
Si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui. Enfin, écoutez, est-ce que c'est... Voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire? C'est une obligation morale.
Le Pen, qui s'exprime à Dreux en 87.
Eh bien, nous sommes prêts à des alliances dans le cadre d'un choix de société qui est évidemment le même que celui de l'opposition libérale, même si nous avons des positions assez différentes sur un certain nombre de problèmes.
Et UBA, 22 avril 88, juste avant cette réélection de François Mitterrand.
Trois gendarmes massacrés à l'arme blanche en Nouvelle-Calédonie, 27 autres séquestrés quelque part dans la brousse sur l'île d'Ouvéa. C'est le bilan de l'opération Commando, menée très tôt ce matin par les indépendantistes kanaks.
Donc on enjambe un petit peu les événements. On ne peut pas détailler jour par jour ces années 80. Sur la réélection de Mitterrand, qui veut commenter?
Ce qui est intéressant, c'est que Mitterrand, avec donc réélu à plus de 54%, tire les fruits à la fois du tournant social-libéral de 83-84, d'une stratégie extrêmement fine et maligne de gestion de la cohabitation. Et finalement, ce que ça signifie, c'est que la France se dit désormais une république du centre, selon le titre d'un best-seller qui paraît cette année-là, écrit par les trois chefs de file de la Fondation Saint-Simon, Jacques Julliard, Pierre-Rosan Vallon et François Furet, qui disent qu'après un siècle et demi de polarité politique forte et de sociale, ils parlent de la fin du social, la France peut enfin être gouvernée au centre, et à regarder même le
débat... Ça me dit quelque chose pour aujourd'hui. Hein
oui, mais à regarder
ça
le débat...
Parle.
C'est purement stratégique, parce que si on regarde le débat présidentiel Mitterrand-Chirac, qui est alors un morceau de bravoure, enfin, qui est superbe, on se rend compte que Chirac a l'air d'un idéologue, d'une sorte de dinosaure de l'âge politique et idéologique, cet âge révolu, c'est-à-dire qu'il a quelques idées à défendre et un programme qui a l'air spécifique, là où Mitterrand ne lui parle que continuité historique, continuité de la République, union, consensus, paix sociale, bref, celui qui, arrivant à couvrir le spectre qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche, garantira à la France cet ordre sans lequel les marchés ne seraient pas satisfaits. Donc effectivement, que Mitterrand soit applaudi par Bruxelles et par la Bourse est normal. Il signifie que la France est plus au centre qu'elle ne l'a jamais été, l'ironie de l'histoire étant bien sûr que dans les années qui suivent, elle le sera moins.
Je crois qu'il y a deux grosses différences entre l'élection de 80 et la réélection de 88. Une qu'on a déjà signalée, qui est évidemment la réaction de la Bourse, qui panique en 81 et qui salue la réélection de François Mitterrand en 1988. L'autre grande différence, elle apparaît à travers le slogan qu'on a entendu tout à l'heure à l'antenne, qui est « Génération Mitterrand ». Entre-temps, le pouvoir, y compris le pouvoir de gauche, surtout le pouvoir de gauche, s'est extraordinairement personnalisé. Quand François Mitterrand arrive au pouvoir en 1980, l'un des slogans de sa campagne, c'était quelque chose du genre « Le premier désir de la droite, garder le pouvoir, ma première ambition, vous le rendre ». Et il arrive au pouvoir, en quelque sorte, poussé par un mouvement populaire sur la base d'un programme politique avec des ambitions collectives. Quand il revient au pouvoir, c'est vraiment l'engouement individuel, la génération Mitterrand. Si vous voulez, la gauche a disparu dans la lettre aux Français qu'il adressera personnellement, qui est sa propre écriture, qui ne sera pas avalisée par le Parti socialiste ou par le Parti communiste ou par quelque structure que ce soit. Dans cette lettre, on ne voit pas une seule fois apparaître le mot socialisme. Et dans cette lettre, il y a tout ce qui, en quelque sorte, débouchera sur la politique économique des années suivantes, cette espèce de stabilisation libérale, là où elle est, ni privatisation ni nationalisation, qui permet surtout, compte tenu du fait que François Mitterrand est quand même le candidat de la gauche, de signaler qu'il n'y aura pas de nationalisation. On n'attend pas encore, à l'époque de lui, des privatisations. Donc c'est en quelque sorte un engagement conservateur. Et je crois que là, c'est les deux grosses différences. D'une part, la réaction de la bourse, et d'autre part, ce pouvoir personnalisé à tel point que la réélection de Mitterrand, on se demande si c'est vraiment une victoire de la gauche, ou si c'est pas davantage la victoire d'un homme.
Pour savoir où va une présidence, en effet, demandez-vous par qui elle est saluée, c'est-à-dire de qui le président réélu est-il l'ami. Il est l'ami de Bruxelles et il est l'ami de la bourse, on vient de le dire. Il est l'ami de Bruxelles, ça n'a rien d'étonnant, ça on l'a déjà vu dans une tranche précédente. Mitterrand a remis la France dans les clous européens en 1983, il a négocié le sommet de Fontainebleau et la relance vers le grand marché qui finira en acte unique signé par Jacques Chirac, et d'une certaine manière, il lance cette grande dynamique absolument continue, transalternance transpartisane qui va voir se succéder les gouvernements de gauche, de droite, mais tous fidèles à l'orientation européenne. Pas de surprise là. Salué par la bourse, bien sûr, parce que à partir de 1983, le socialisme de gouvernement est le meilleur ami de la finance. Il fait la déréglementation de 1986, il multiplie les encouragements par voie d'incitation fiscale à l'orientation de l'épargne des Français vers les produits d'action, les PEA, c'est quand même une grande affaire socialiste. Les socialistes apporteront leur écho aux privatisations et même plus que leur écho avec Lionel Jospin un peu plus tard. Ils chanteront glorification et défiscalisation des stock-options avec Strauss-Kahn. Ils institueront l'épargne salariale financiarisée qui sera une amorce de fonds de pension avec Laurent Fabius en 2001. Et voici qu'en 2007, Ségolène Royal reparle de fonds de pension. Là, il faut arrêter de déconner parce que c'est vraiment très très grave. La financiarisation sera complètement achevée et malheureusement, je le crains, irréversible.
Serge Limy.
Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au lendemain de l'élection de François Mitterrand, il va intervenir un élargissement de la majorité au centre, pour ne pas dire au centre droit, avec des personnalités associées au giscardisme, comme Lionel Stoléru ou Olivier Stirne. Élargissement qui n'est même pas nécessaire, qui a été en quelque sorte provoqué par une déclaration de Mitterrand, faisant savoir qu'il ne souhaitait pas que les socialistes aient seule la majorité à l'Assemblée nationale et qu'il serait bon qu'ils doivent former une coalition avec des partis ou en tout cas avec des personnalités du centre.
En vous écoutant tous les trois là, parce qu'on a tous les quatre vécu, et puis beaucoup d'auditeurs ont vécu quand même ces années-là.
Survécu
à ces années-là. On se dit mais que pensions-nous à l'époque? Que disions-nous à l'époque? Que pensaient les... Est-ce que les Français se rendaient compte de ce qui leur arrivait? Là, sur cette élection, est-ce qu'ils ont cru réélire un homme de gauche ou, comme le dit Halimi, réélire Mitterrand?
C'est d'abord un problème de recul. On ne sait jamais ce qui nous arrive au présent et puis on ne sait pas à quel moment ça passe à l'échelle de l'histoire. En revanche, c'est vrai que ce que disait Serge Halimi est vrai. Il y a une personnalisation de la politique à tel point que le personnage de Mitterrand, patelin, à la fois royal et assez proche, paternel ou avanculaire, parce que c'est plutôt une figure d'oncle, c'est tonton. Hein. C'est d'ailleurs l'année où on commence à l'appeler tonton et où au bébé de show de TF1, il devient effectivement la grenouille. On a effectivement à cette époque l'impression que le désarroi politique et idéologique est tel qu'il y a un effet psychologisant, rassurant de petit père des peuples de Mitterrand, qui a un effet psychologique à mon avis inquantifiable mais énorme, qui explique beaucoup, enfin qui explique aussi ce raz-de-marée, parce que après tout les déçus de la gauche, qu'on appelle les déçus de la gauche, ils existent déjà, ils ont déjà eu le temps d'être déçus hein, en 7 ans. Il y a quand même eu une casse sociale et un doublement du taux de chômage qui fait que les socialistes auraient dû quand même voir leur électorat rongé. Donc je pense qu'il y a là une sorte de réflexe personnalisant, on se rassure autour de cette figure de Mitterrand.
Au demeurant, lorsque la droite revient au pouvoir en 1986, c'est une droite extraordinairement à droite, qui ne correspond pas à ce qu'on avait connu précédemment, et va donc se constituer contre cette droite autour de François Mitterrand, faute de mieux, mais il est là, et il semble être en mesure de barrer la route à Chirac, une espèce de réaction défensive à ce que cette droite a révélé d'elle-même pendant ces deux ans. Il faut se souvenir que le discours d'investiture de Jacques Chirac en 1986 devant l'Assemblée nationale est l'une des déclarations les plus ultra-conservatrices de l'histoire politique française. Là, c'est une affirmation reaganienne, d'ailleurs. Reagan et Thatcher sont les modèles de la droite française à cette époque. Donc, il va se constituer en forme, en quelque sorte, de défense, de réaction à cette droite, un soutien à François Mitterrand. Beaucoup de gens ont compris que ça n'était pas le président de gauche qu'ils espéraient en 1981, mais ils se disent, devant la tempête, faut kiffer le délicat.
Mais est-ce qu'au fond, est-ce que la France, à ce moment-là, est au centre? Est-ce que c'est la fin de la bipolarité?
Elle est assoupie politiquement et sociologiquement, en partie par les discours qui lui sont tenus sur la fin des polarités de classe, la nécessité de l'entreprise, le consensus sur l'Europe et sur les marchés. Ce paysage-là de la République du centre est faux. En revanche, les médias y croient tellement ou ont tellement envie d'y croire et en font tellement état qu'il y a un effet un peu, vous savez, de prophétie autoréalisatrice où effectivement les gens se pensent au centre. Ce qui évidemment jouera à terme, en faveur des votes extrêmes, c'est-à-dire d'une réaction d'électeurs qui, eux, se repolitisent, considérant que tout ça est évidemment un grand mensonge, ce qui favorisera finalement, à terme, à long terme, l'extrême-gauche, pour d'autres raisons qui sont la fin des années 90, et à court terme, le vote Le Pen qui continuera d'augmenter.
Est-ce qu'on peut faire des rapprochements avec aujourd'hui, la situation dans laquelle on se trouve à la veille de ces élections?
C'est-à-dire que le terme même que vous avez employé, le centre, est un terme extraordinairement discutable, parce que lorsqu'on voit ce que sont les politiques économiques et financières qu'a évoqué Frédéric Lordon, ce sont des politiques qui 15 ans plus tôt auraient été perçues comme de droite dure, quoi. C'était les politiques économiques que même Valéry Giscard d'Estaing ou Raymond Barre n'auraient pas pu mettre en œuvre. Donc le centre s'est considérablement déplacé à droite.
Ah ben non, c'est la droite qui est allée au centre, le monde va vers la gauche.
Oui, ça c'est la présentation.
Mais ce qui est drôle, c'est que le même Mitterrand disait dans une interview à la fin des années 70, quand on l'interrogeait justement sur la possibilité de gouverner au centre, il s'énervait contre cette notion sempiternelle de centre impossible en France, et il disait « En France, le centre a toujours été à droite ». Cette phrase, on aurait dû effectivement la mettre en banderole au-dessus de l'Elysée le lendemain de son élection de 88, quoi.
Tu trouves ça rigolo?
Oui, rigolo. Hein? Rayman, il a les dents rigolotes.
Rayman?
Oui.
J'ai dit Rayman?
Oui, il est rigolo, Rayman.
Et puis, des noisettes en moins pour l'écureuil. Et ça, en partie à cause des privatisations. Les épargnants ont délaissé les livrets A de la Caisse d'épargne. Des mesures d'encouragement pourraient être annoncées dès aujourd'hui par M. Balladur, avec un relèvement du plafond des dépôts et une hausse des rémunérations. La météo, chaud, beau, partout.
Qui joue en première basse? Qui, le nom du type qui joue en première basse? Qui joue en première dans l'équipe de Saint-Louis?
Prison bloquée, commissariat submergé, procès reporté comme celui d'Action Directe.
Qui joue en première basse? Qui, le nom du type qui joue en première basse?
PTT, transport urbain, Air France, Sécurité sociale, EDF. À peine un peu s'éteint qu'un autre s'allume. Toujours les mêmes revendications.
Qui joue en première basse? Qui, le nom du type qui joue en première basse?
Salaire, conditions de travail. La rigueur passe moins bien quand l'économie va mieux.
Qui joue en première dans l'équipe de Saint-Louis? Qui? Pourquoi tu me demandes ça?
Pourquoi il fait ça? Qui en première base? Quand il est nerveux, il récite qui est en première base.
Qui est la botte des costards?
Qui est le sketch en première base?
Qui? C'est son nom. C'est comme ça qu'il s'appelle. Qui? Mais qui joue en première base? Qui? Le nom du type qui joue en première base? Qui joue en première dans l'équipe de Saint-Louis?
Politique. Après les hommes de l'ouverture, voici les dossiers clés de l'ouverture. Ce matin, au Conseil des ministres, le gouvernement a présenté les deux projets de loi qui vont sans doute dominer la vie politique française dans les mois à venir. D'un côté, l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. De l'autre, le revenu minimum d'insertion. Un coup d'œil sur les textes, en compagnie de Claire Chazal et de Christophe Martet. Ensuite, nous évoquerons les enjeux politiques.
L'impôt de solidarité sur la fortune devrait concerner environ 120 000 personnes. L'ISF devrait rapporter environ 4 milliards de francs à l'État.
Cet impôt de solidarité sur la fortune doit financer en partie, pour la moitié environ, le revenu minimum d'insertion.
Ce sont les préfets qui distribueront ce revenu aux 500 000 Français les plus pauvres.
Une personne seule touchera 2 000 francs par mois, auxquels pourront s'ajouter 1 000 francs pour une autre personne du ménage et 600 francs par enfant à charge.
Voilà, là on est content quand même, c'est le 13 juillet 1988, on a l'ISF, 4 milliards de francs qui vont être attribués aux pauvres. On prend aux riches pour donner aux pauvres, de quoi se plaint-on ?
Ce qui est intéressant, c'est que on parle à ce moment-là des exclus, et c'est la première fois dans les débats politiques français que ce mot désormais hyper courant apparaît. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il remplace les pauvres, les nouveaux pauvres, les prolétaires. On a ce terme d'exclus qui est très intéressant parce que littéralement, il dit bien qu'il y a cette espèce au centre, cette machine sociale qui serait la classe moyenne, ceux qui se réalisent par le travail et leur vie sociale. Et puis ceux qui en sont exclus, que quelques mécanismes régulateurs vont tenter de réintégrer. Mais cette espèce de dialectique du dedans et du dehors, de l'intégration et de l'exclu, apparaît à ce moment-là. C'est un moment effectivement clé, parce qu'en gros, la façon dont on parle de la pauvreté aujourd'hui date exactement de ces débats de 88 sur le RMI.
Frédéric, pardon.
Oui, il faut se souvenir tout de même que parmi les facteurs qui ont causé la défaite électorale de la droite en 88, il y a eu la très maladroite suppression de l'IGF, impôt sur les grandes fortunes, ancêtre de l'ISF, par Jacques Chirac, qui s'en est mordu les doigts longtemps après. Alors évidemment, la recréation d'un impôt équivalent sous le nom un peu différent d'ISF apparaît comme une reconquête de gauche absolument magnifique. Et comme vous le disiez, on prend aux riches pour redistribuer aux pauvres. Il faudrait être bête pour s'opposer à une si bonne politique socialiste. Évidemment, avec peu de recul, on pouvait s'apercevoir qu'on entrait là dans le registre de l'alibi et de la verroterie de la politique fiscale, c'est-à-dire de la gesticulation symbolique qui redistribue des masses financières finalement de volume extrêmement maigre et qui permettent de faire passer en contrebande toute une série d'autres choses qui alors là pèsent singulièrement plus, comme la désindexation des salaires à laquelle on a procédé entre 1983 et 1986, l'explosion des revenus financiers, etc. etc. Et ça va tout à fait bon train. On pourrait observer néanmoins que dans cette logique de l'alibi et de la verroterie, il y avait finalement deux instruments. Il y avait la redistribution fiscale de troisième ordre, et puis il y avait des efforts quand même qui étaient consentis par la gauche pour faire bonne figure sur le terrain des mœurs sociétales, culturelles, etc. Or, que verra-t-on au bout de quelques années, c'est-à-dire lorsque la gauche reviendra au pouvoir à partir de 1997, c'est que ne restera plus que le deuxième instrument, celui des mœurs, et finalement, ça n'est plus qu'avec le PAX qu'on achètera la tranquillité sociale, même l'instrument fiscal aura été mis au rebut, puisque, comme vous le savez, la gauche reviendra armée de très bonnes dispositions orthodoxes, selon lesquelles augmenter les impôts, ça nuit à la croissance. Donc, pour ce qui est des redistributions, vous repasserez.
C'est le grand bond en arrière.
Disons en tout cas que les accomplissements de la gauche sont singulièrement revus à la baisse avec le temps. En 36, on avait eu les congés payés, les 40 heures et l'office du blé. En 44-46, on avait eu la sécurité sociale. En 81, une augmentation substantielle du salaire minimum, de la dépense publique, les nationalisations. Là, en 88, alors bon, vous allez avoir quelque chose, mais regardez bien, ça va pas durer longtemps. Vous avez le RMI et la Nouvelle-Calédonie. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, on peut pratiquer une politique qui, elle, est beaucoup plus traditionnelle, orthodoxe, pour ne pas dire conservatrice.
C'était Année 80, retour en arrière, une émission préparée par Renaud Lambert. Merci à François Cusset, Serge Halimi, Frédéric Lordon, ainsi qu'à Jennifer Guillot et Florence D'Artois. De Lina, à lire La décennie, le cauchemar des années 80 de François Cusset aux éditions La Découverte, Le grand bond en arrière chez Fayard, ainsi que Quand la gauche essayait chez Arléa de Serge Halimi, La vertu sauvera le monde et Fonds de pension piège à con de Frédéric Lordon aux éditions Raison d'agir. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Michel Toutain et Olivier Daligo, réalisation Yann Chouquet et Koyen Guyen, assisté de Charlotte Perry, chef du répondeur Christophe Imbert. Yeah.